Et merci d'être avec nous sur France Inter, il est 19h. Hélène Philippe, bonsoir.
Bonsoir à tous. Deux finalistes sur un plateau, mais reverseront-ils la table, Emmanuel Macron, face à Marine Le Pen à 4 jours du second tour de la présidentielle? Est-ce que ce débat intéresse les électeurs? On a posé la question à la sortie des bureaux ce soir et nous serons aussi avec Léa Salamé à quelques minutes de l'arrivée des candidats qui arbitrera le match ce soir avec Gilles Boulot. Confrontation à vivre sur France Inter avec vous, Fabienne. Émission spéciale qui commence juste après ce journal.
Évidemment que nous aussi on parle de ce débat, de ces enjeux ou pas, de cet exercice certes convenu, mais moment tellement important entre deux tours. Alors oui, pour vous, c'est important de les voir, surtout que c'est un match retour. Oui, c'est important de les entendre, donner leur point de vue et leur programme. Oui, votre vote est fragile, peut bouger après le débat ou non, vous regarderez autre chose. Non, votre choix est déjà fait. Dites-nous tout jusqu'à 21h, donc au 01 45 24 7000.
L'actualité, c'est encore la Russie qui teste le dernier né de ses missiles balistiques, très longue portée, sans équivalent, et c'est un message envoyé aux Occidentaux. Deux policiers jugés pour des propos racistes sur un groupe Facebook privé. L'un d'eux seulement à l'audience aujourd'hui. Il nie toute infraction. Et puis Brigitte Fontaine ce soir au Printemps de Bourges pour une soirée hommage.
France Inter.
En 50 ans, l'exercice a peu bougé, mais reste un passage quasi obligé. Ce débat d'entre-deux-tours entre les deux finalistes à l'élection présidentielle a donc lieu ce soir, 21h. Emmanuel Macron, Marine Le Pen. Y aura-t-il plus de monde devant la télévision que les 16,5 millions de personnes il y a 5 ans? Bonsoir William Delesseux.
Bonsoir Hélène.
Sortie de bureau dans le quartier de la Défense près de Paris ce soir. Est-ce que ceux que vous avez croisés ont réservé leur soirée?
Oui, ces salariés de la banque, de l'énergie, des assurances, ils vont prendre le métro ou le RER ce soir d'un pas plutôt pressé. Elisabeth sera avec son mari et ses deux grands-enfants devant la télévision.
Et on va suivre un peu le débat, parce que je sais pas du tout pour qui voter, parce qu'étant donné que je veux ni l'un ni l'autre...
Qu'est-ce que vous attendez des échanges entre les candidats?
Peut-être qu'ils affinent un petit peu plus leur projet. Tout change en fait, rien n'est arrêté, tout évolue, c'est très compliqué, voilà.
Mais les bureaux sont loin d'être vides à cette heure-ci, tout comme les commerces autour de la grande tour du Cœur Défense. Manon sera ce soir bloquée, à regret, derrière le bar de son restaurant.
Bah, j'aurais juste bien aimé voir comment elle se serait défendue Marine Le Pen. On n'a pas le temps, hein. Travail, voilà, obligeant.
Il y a ceux qui boycottent le rendez-vous avec des excuses. Non, j'ai un verre en terrasse au soleil, je pars en vacances. Voilà ce qu'on nous a parfois répondu. Muriel, salarié du secteur de la santé, jettera peut-être un œil à contre-cœur.
Oui, je vais quand même commencer à regarder déjà. J'ai peur que ça ne m'intéresse pas, ça m'énerve.
Ce n'est pas le moment où vous faites votre choix, ce débat.
Ah non, pas du tout. C'est déjà fait, que le meilleur gagne.
Comme avant un grand match de football, tous sélectionneurs maintenant, c'est tous conseillers politiques. Nicolas donne un dernier conseil aux deux candidats.
Faut pas qu'ils tombent dans l'agression en fait. Qui reste calme, pour rester basique en fait, les bases. C'est pas un combat de boxe.
Le respect, la clarté des échanges, c'est le souhait qui revient parmi ces salariés qui, dans 2 heures, seront téléspectateurs.
William Delesseux en direct du quartier de la Défense près de Paris avec Marc Garvenès. Et on va prendre la direction de la Plaine Saint-Denis à présent, où se trouve le studio. Et Léa Salamé, qui avec Gilles Boulot se prépare à accueillir les candidats. Bonsoir Léa.
Bonsoir.
Alors on est un peu moins de 2 heures de ce débat crucial de l'entre-deux tours. Est-ce que tout est réglé?
Tout est presque réglé. Après, il y a toujours des petits détails à la dernière seconde, mais heureusement, ce n'est pas Gilles Boulot et moi-même qui devons les régler. En tout cas, les questions sont écrites, on s'est entraîné, on a lu, relu encore avec Gilles Boulot ces questions-là, parce que c'est un débat qui est évidemment très écrit, où il y a très peu la place pour l'improvisation, puisqu'on doit vraiment veiller au maximum à l'égalité des temps de parole, à la bonne tenue du débat, à la clarté, au fait de donner, de poser presque exactement dans les mêmes termes la même question aux deux intervenants. Cette partie-là, oui, on est à peu près bon avec Gilles Boulot sur la question.
Et pour les détails techniques, la température, les plans de coupe, ça n'a pas été évident, visiblement, de mettre les équipes d'accord. Est-ce que sur ce point-là, tout le monde est désormais en accord?
Écoutez, je crois oui, tout le monde est en accord. Comme à chaque débat, comme tous les 5 ans, il y a des négociations, c'est la vérité, ça se passe comme ça. Il y a des négociations pendant plusieurs jours avec les équipes des deux candidats. Et c'est quelque chose que je peux comprendre, si vous voulez, parce que c'est un moment démocratique tellement important. Il joue l'avenir du pays à 4 jours d'un scrutin qui est décisif. Il joue aussi, d'une certaine manière, leur destin personnel à l'un et à l'autre. Donc, si vous voulez, tout doit être extrêmement bien vissé.
Est-ce qu'il y a de la tension ?
Oui, on sent la pression au fur et à mesure des heures qui se sont écoulées cet après-midi à la Plaine Saint-Denis dans le studio. On sent que ça monte. Chaque heure qui passe, la tension monte et on essaye au maximum avec Gilles Boulot de rester concentré dans nos loges, à être scotché d'une certaine manière sur nos textes, sur ce qu'on a à faire, sur ce qu'on a à dire, pour se protéger de cette tension, de cette pression qui est là partout dans les couloirs des studios. On la sent, on la ressent.
Vous connaissez bien la télé, hein, Léa, mais ce soir, c'est pas une émission ordinaire, c'est un rite de la Ve République avec ses codes qui n'ont pas beaucoup bougé. Comment est-ce que vous abordez ce genre d'exercice ?
Avec sobriété, avec humilité. C'est vraiment pas un moment où il faut faire son malin, si vous me permettez l'expression. C'est un moment, comme vous le dites, c'est un moment où on s'inscrit dans une histoire, dans une forme qui est très classique, qui est très différente de la modernité des émissions de télé aujourd'hui. Et je trouve ça assez rassurant qu'on se retrouve dans une forme un peu nostalgique d'une histoire qui nous a précédés et d'une histoire où, au fond, les journalistes n'avaient absolument pas le premier rôle. Ce que je veux dire, c'est qu'on se souvient du monopole du cœur ou « Oui, monsieur le Premier ministre », etc. On se souvient des punchlines entre les différents candidats, mais on doit faire un effort pour se rappeler qui animait ce jour-là en 95 ou en 88. C'est pas évident. Donc, si vous voulez, vraiment, je le prends comme un job où il faut être le moins le mieux, au fond.
Vous êtes plutôt dans un rôle de modérateur, hein, c'est ça la règle, c'est quoi ? C'est vous relancez jamais les candidats ?
Non, on peut les relancer, on va les relancer, mais oui, c'est pas du tout l'exercice de l'interview pure telle qu'on a appris à la faire, Gilles Boulot et moi, c'est-à-dire où on doit penser à la relance, à la deuxième relance, à la troisième relance, à lui dire ça pour essayer de le déstabiliser, etc. C'est pas du tout cet exercice-là. C'est vraiment un exercice de modérateur. Vous l'avez dit, au fond, la pression, elle est sur eux. C'est eux qui vont rater ou réussir leur débat. Nous, on est derrière pour relancer, pour mettre du sel et du poivre quand il le faut. Mais ce n'est pas une interview.
Et ça va se voir d'ailleurs parce que vous êtes plus loin, on a vu hein, les images du plateau, vous vous trouverez à plus de 4 mètres des deux candidats.
Oui, c'est un parti pris, c'est la première fois qu'on le fait pour un débat d'entre-deux-tours. Jusque-là, il y a toujours eu une grande table où il y a les deux débatteurs face à face et les intervieweurs qui sont côte à côte. Et bien là, il n'y a pas de table, il y a deux petits pupitres et nous, on est à 4 mètres d'eux, donc beaucoup plus éloignés d'eux. Et ça, on n'a jamais vu, mais ça ressemble au débat aux États-Unis où ça se passe comme ça, les derniers, notamment le dernier où il y avait Donald Trump, Chris Wallace qui animait le débat, était à 8 mètres dans une espèce de fosse. Et vraiment pour montrer en image que ce qui compte ce soir, c'est leur échange à eux deux. Et que nous, on est là juste pour que leur échange se passe bien, qu'il y ait une bonne tenue, que ça débatte, que ce ne soit pas ennuyeux. Mais on n'a pas les premiers rôles ce soir.
Vraiment. Les premiers rôles, hein, Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui doivent arriver dans ce studio de la Plaine Saint-Denis dans une grosse demi-heure. Maintenant, la candidate d'extrême droite aura à faire oublier sa prestation ratée d'il y a 5 ans et le sortant à défendre un bilan, une même affiche mais des enjeux différents, d'autant que si les derniers sondages creusent l'avance d'Emmanuel Macron, le match s'annonce bien plus serré que la dernière fois et ils commenceront par parler pouvoir d'achat. Bonsoir Anne Souhaitemont.
Bonsoir Hélène.
C'est le sujet qui a dominé la campagne.
Oui, à commencer par celle de Marine Le Pen hein, qui a choisi, parfois contre l'avis de ses troupes, de faire du pouvoir d'achat le fil rouge de sa campagne. 2 mesures phares annoncées dès son discours de rentrée, c'était en septembre, dont la privatisation des autoroutes, puis des mesures perlées tout le long de cette campagne, suppression de la TVA sur une centaine de produits de première nécessité, exonération d'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans. Je veux redonner 150 à 200 euros de pouvoir d'achat aux ménages, martèle-t-elle depuis des semaines. Sur le papier, le hasard du tirage au sort, plutôt confortable donc pour la candidate du RN, qui aura en plus le premier mot, mais attention, elle sera attendue au tournant par Emmanuel Macron qui compte bien défendre son bilan en la matière, bouclier tarifaire, chèque énergie, son programme pour les 5 prochaines années, poursuite du blocage des prix de l'énergie, suppression de la redevance, prime Macron jusqu'à 6000 euros et qui a fait une grande promesse, le plein emploi à la fin du quinquennat, levier selon lui pour augmenter le pouvoir d'achat. Mais le candidat va surtout attaquer le sérieux de son adversaire sur la préoccupation numéro un des Français, comment financer ces mesures.
Le modèle social, l'environnement, la santé auront aussi une place importante, contrairement à la dernière fois où les questions climatiques notamment avaient été particulièrement absentes. Débat diffusé sur TF1, France 2 et donc France Inter à partir de 21h ce soir. Et pour 2h30, on continuera à en parler avec vous Fabienne juste après ce journal. Et la guerre s'est encore invitée dans la campagne aujourd'hui avec des prises de position marquées en Ukraine et en Russie. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky d'abord, interviewé par BFM TV à distance, s'adressant à Marine Le Pen qui a jusqu'ici toujours refusé de condamner l'annexion de la Crimée il y a 8 ans par la Russie.
Si madame la candidate comprend qu'elle s'était trompée, notre situation pourrait changer, notre relation pourrait changer. Je ne suis pas persuadée que j'ai droit aujourd'hui d'influencer ce qui se passe chez vous. Bien évidemment, j'ai des relations avec Emmanuel Macron et je ne voudrais pas les perdre.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et position plus tranchée en Russie du principal opposant de Vladimir Poutine, Alexei Navalny, qui s'est fendu d'une longue série de tweets en français depuis sa prison, accusant le parti de Marine Le Pen de compromission avec le président russe et appelant clairement à voter Emmanuel Macron.
La Russie qui brandit la menace d'un tout nouveau missile aujourd'hui.
En affirmant avoir réussi le premier tir d'essai du dernier né des missiles balistiques intercontinentaux russes, Sarmat, c'est son nom, une arme sans équivalent, vante Vladimir Poutine, capable de dégâts considérables. Bonsoir Thibault Lefebvre.
Bonsoir Hélène.
Et c'est une menace claire adressée aux États-Unis et à leurs alliés.
Oui, Washington affirme le contraire. Et pourtant, le choix du missile a de quoi faire peur. Le Sarmat fait partie de ce que les Russes appellent les invincibles. 30 mètres de long, plus de 200 tonnes, il peut être chargé de 10 têtes nucléaires, ce qui permettrait de détruire un territoire comme la France. Et il a surtout une portée de 18 000 km, qui dépasse donc largement le cadre d'intervention de la Russie en Ukraine. Autrement dit, pour l'ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU, le général Dominique Trinquant. La déclaration de Vladimir Poutine s'adresse à son opinion publique, mais aussi et surtout, vous l'avez dit, aux États-Unis et à ses alliés.
C'est un message pour montrer que la Russie a une technologie extraordinaire et des armes très puissantes. C'est un missile qui fait partie de la dissuasion stratégique russe. Et ce message, c'est à l'intention du peuple russe pour le rendre fier de sa technologie et de ce qu'il est capable de faire. Et en direction des Occidentaux, en disant « ne vous trompez pas, nous avons des outils puissants ». C'est un message, il ne s'agit pas d'une menace directement.
Une escalade verbale donc, qui fait suite à l'annonce du Pentagone hier de l'envoi d'avions de chasse en Ukraine. Et même si Washington rétropédale en précisant ce soir que l'aide américaine ne concerne que des pièces détachées, il semble évident que l'essai du Sarmat est une réponse du Kremlin à l'accélération des livraisons d'armes occidentales.
Et les États-Unis temporisent, hein, vous le disiez Thibault, le Pentagone parlant d'un essai de routine qui n'est pas une menace. L'Union européenne, toujours aux côtés de l'Ukraine, elle fera tout son possible pour que le pays gagne la guerre, dit ce soir le président du Conseil européen Charles Michel à Kiev, alors que les combats s'intensifient dans l'Est et le Sud, la ville de Mariupol toute proche de sa chute. Dans ce contexte, les Britanniques décident d'exclure les joueurs russes et biélorusses du tournoi de Wimbledon qui se tient à partir de la fin du mois de juin en Angleterre. Et puis la justice britannique qui autorise par ailleurs formellement l'extradition de Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, poursuivi par la justice américaine pour la diffusion de documents classifiés. Il peut encore faire appel devant la haute cour.
Et puis deux policiers, Hélène, jugés aujourd'hui à Paris.
Pour des messages racistes postés sur un groupe Facebook de plus de 7500 membres en juin 2020, le ministre de l'Intérieur lui-même avait saisi le parquet. Bonsoir Ariane Grissel.
Bonsoir.
Un seul des deux fonctionnaires convoqués était présent aujourd'hui à l'audience. Il connaît ses propos, mais conteste tout racisme.
C'est un commentaire au sujet de l'attaque à Romans-sur-Isère par un réfugié soudanais en avril 2020 qui vaut à ce brigadier d'être aujourd'hui devant la justice. Ce pays est vraiment devenu la poubelle du monde, écrivait-il notamment. J'ai réagi de manière émotionnelle, explique à la barre le policier. Il y a eu un télescopage, le Soudan, c'est la charia, roman, la Dolce Vita, résume celui qui dit avoir la réputation d'être un poète. Qu'est-ce qu'on met dans les poubelles, monsieur ? Lui demande l'avocat d'une association antiracisme. Le but n'est pas de traiter telle ou telle catégorie de personnes de déchets, se défend défend le policier. Un autre avocat rappelle le devoir d'exemplarité des policiers, tandis que la procureure revient sur la notion d'injure. Dans ce message, ce n'est pas la politique migratoire qu'il aborde, ce sont bien des personnes. Elle réclame à l'encontre du fonctionnaire 3 mois de prison avec sursis, 90 jours amende à 100 € pour l'autre prévenu, un gardien de la paix désormais en disponibilité. Le policier présent n'a pas voulu d'avocat, il plaide pour lui-même. « Je suis né en 77, je ne suis pas éligible à la Waffen-SS. Je comprends aujourd'hui qu'il est question de faire un exemple. »
Ariane Grissel et la décision sera rendue le 22 juin prochain. Une sensation de piqûre et puis un léger malaise. Comme à Nantes, il y a quelques semaines, 7 jeunes de 17 à 22 ans viennent de porter plainte à Grenoble, racontant avoir été piqués en boîte de nuit ou au cours d'un concert. Le parquet vient d'ouvrir une enquête et d'autres cas relevés ces derniers jours à Béziers et à Caen après le carnaval étudiant. À Nantes, les analyses n'avaient pas permis de trouver de substances nuisibles dans le sang ou l'urine des victimes. L'épidémie de Covid en France ralentit nettement, mais en Chine, les confinements de plusieurs grandes villes commencent à peser sérieusement sur l'économie. Un exemple, alors que s'ouvre aujourd'hui dans le sud du pays, à Boao, l'équivalent du Davos de l'Asie, avec ce gros fabricant de téléphones portables, usine à l'arrêt, c'est le reportage de notre correspondant Sébastien Berriot.
Les usines de ce sous-traitant, installées notamment dans la ville de Shenzhen, emploient en temps normal plusieurs dizaines de milliers d'ouvriers. Mais avec les mesures de confinement que la Chine a mis en place, la production des téléphones portables s'avère de plus en plus compliquée, voire impossible. Les usines du groupe Jianwei ne reçoivent plus de pièces détachées. Le patron, Jianqian Liang, ne peut que constater les dégâts économiques de l'épidémie.
L'impact de l'épidémie se situe principalement au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Notre approvisionnement est bloqué, on a même dû importer certaines pièces d'autres pays asiatiques. En raison des restrictions sanitaires, les produits accessoires dont nous avons besoin pour fabriquer les téléphones portables sont en retard, à tel point que nos usines ont dû suspendre temporairement leurs activités. J'espère vraiment que l'épidémie va se terminer pour que la production revienne à la normale. Je pense qu'un jour, lorsque le virus sera plus faible, nous devrons coexister avec lui.
Manière de sous-entendre que la Chine devra un jour accepter de lever sa politique zéro Covid pour vivre avec le virus, mais ce n'est pas pour demain. Malgré les dégâts économiques, le discours officiel répète que cette stratégie zéro Covid est la seule voie pour la Chine. Sur l'île de Hainan, Sébastien Berriot, France Inter.
Et voici une aide nouvelle pour les personnes atteintes de handicap mental, réclamée depuis longtemps par les associations. Au même titre que les personnes handicapées physiques, elles auront droit à la présence de quelqu'un quelques heures par semaine pour les aider dans leur quotidien désormais, que cela ne repose plus exclusivement sur les proches. Hélène Lemeur est chargée de ce dossier à l'UNAPEI, l'une des principales associations de défense des droits des personnes atteintes de handicap intellectuel.
L'accès à cette prestation, il est fondamental pour des personnes qui sont concernées par ces situations de handicap-là. Préparer un repas, c'est-à-dire le programmer pour une heure bien précise, anticiper le fait de sortir le beefsteak du réfrigérateur, le mettre dans une poêle et enchaîner tout un tas d'actions qui sont vite complexes pour ces personnes-là. Entretenir son logement pour vivre dans des conditions décentes, ça n'est pas forcément à la portée de certaines personnes qui, bien qu'ayant une autonomie, ont besoin d'une aide humaine régulière ou ponctuelle. Il verra le jour seulement en janvier 2023. Concrètement, l'aide humaine auquel on peut accéder quand on perçoit cette prestation peut prendre différentes formes. Il peut s'agir d'embaucher un emploi à domicile. Et lorsque l'entourage intervient en tant qu'aidant, dans ce cas-là, la prestation de compensation du handicap peut permettre à la personne de dédommager ses proches pour l'aide qu'il leur apporte, voire dans certains cas plus exceptionnels, de les salariés.
Hélène Lemeur de l'UNAPEI avec Hélène Chevalier. Elle a 82 ans et elle est encore sur scène. Elle n'a pas fini de nous surprendre, Brigitte Fontaine. Elle tire son irrévérence ce soir au Printemps de Bourges, sacrément bien entourée, Bertrand Belin, Anna Mouglalis et Arthur Hache notamment, qui connaît la chanteuse poétesse depuis toujours et qui n'aurait pas voulu manquer ça.
C'est Brigitte qui m'a demandé, puis Hollywood, c'est un texte que j'ai fait il y a vraiment très longtemps, du coup j'avais très envie de le faire, et puis cet enfant que je t'avais fait aussi, peut-être là une histoire un peu intime, où c'est paru justement l'année de ma naissance. Je connais Brigitte depuis que je suis né, littéralement, parce qu'elle a commencé à travailler avec mon père un an avant ma naissance, je pense, pour la grossesse de ma mère finalement, par sa présence. et son travail, elle m'a énormément transmis, ouais, énormément. Ouais. Elle a tellement de personnalité, Brigitte, c'est vrai que ça peut être une femme très ancienne, ça peut être vraiment une enfant, et ça peut être quelqu'un de très moderne qui a des visions pas possibles sur le futur, qui sont ou dystopiques ou très belles. Ça peut être quelqu'un aussi qui, t'as l'impression des fois que c'est une vieille prêtresse celte, tu vois, un truc comme ça, quoi, là. C'est quelqu'un, qui, elle et Reski, sont habitués à la difficulté, quoi.
Je cherche la porte dorée.
Hollywood, un titre de Brigitte Fontaine, chanté ce soir donc au Printemps de Bourges par Arthur H, qui était au micro de Mathieu Culon.
Et merci beaucoup Hélène Filignou, on ne se quitte plus, on reste ensemble jusqu'à 21h, jusqu'au démarrage du débat d'entre-deux-tours, ce moment cathédral dans toute la campagne électorale. Vos questions, vos remarques, nous les attendons au 01 45 24 7000, mais on jette quand même d'abord un œil sur le ciel.
La météo avec Euromaster, toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Suivi préventif, entretien sur site ou en centre, Euromaster est au service de votre mobilité et de votre sécurité.
Et Jean-Pierre Hameau, vous nous promettez un temps instable dans le sud, mais qui reste printanier dans le nord.
Effectivement Fabienne, avec du soleil et de la douceur, vous retrouverez des conditions quasi printanières au nord de la Loire et jusque vers les frontières du nord et du nord-est. En revanche, toujours sous l'influence de la dépression ibérique, le temps restera maussade de l'Aquitaine au Massif central, de l'Occitanie à la région PACA, sans oublier la Corse. Les pluies associées seront parfois soutenues, en particulier vers le Pays Basque en matinée, autour du Golfe du Lion l'après-midi, mais aussi vers l'île de Beauté où l'on attend des cumuls de pluie compris entre 30 et 50 mm. Et puis de la Bretagne à Poitou-Charentes, du centre au Lyonnais jusque vers les nords des Alpes. Prévoyez un ciel variable avec quelques ondées très localisées. Les températures maximales dans le sud-ouest resteront fraîches pour la saison. N'attendez pas plus de 12 degrés à Tarbes, 13 à Biarritz, 15 à Dax et Biscarrosse, 16 à Toulouse. Ça sera plus doux ailleurs avec 19 à Orléans et Nîmes, 20 à Paris, Grenoble et Marseille. Et puis on retrouvera à peu près le même type de temps vendredi. Samedi, prévoyez de fortes pluies orageuses en région PACA apportant de bons cumuls de pluie. Le temps sera changeant ailleurs avec quelques averses. Seul le nord du pays conservera un temps sec et plutôt bien ensoleillé.
Eh bien voilà, tout est dit. Jean-Pierre Hameau de Météo France, merci beaucoup.